Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'armes. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardaires. Noble.
Journal vivant.
Construction.
Obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Hein.
Imiter son silence.
Bonjour à toutes et à tous, il est 13h, vous écoutez le Théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre radiophonique en direct de Radio Canu, tous les vendredis de 13h à 14h. Aujourd'hui dans le studio avec moi, il y a Eva Natalia Grenier, bonjour.
Bonjour.
Anne-Sophie Ortiz-Balin,
salut.
Et Loïc Mabili.
Salut.
Bonjour à tous les trois. Alors nous sommes là aujourd'hui tous les quatre pour faire la lecture de l'épisode 4.
L'épisode 3,
voilà, j'anticipe. De l'épisode 3 de Elles y croient qu'elles peuvent voler. Et l'épisode 3 a pour titre Attachez vos ceintures. Mais avant de se lancer dans la lecture, je vais donner la parole à Eva qui est l'autrice de ce texte.
Oui, on va peut-être vous resituer où on en est de l'histoire. Donc, comme on est à l'épisode 3, donc pour vous résumer tout ça, en fait, la saga, elles y croient qu'elles peuvent voler. Ça parle de deux cousines trentenaires qui rencontrent une nouvelle génération et ça devient un prétexte dramaturgique à la mise en abîme d'une histoire familiale et du traitement des mots sociétaux selon les générations. Donc, dans le premier épisode, on a rencontré les deux personnages principaux qui sont Elisa et Megan. On a découvert leur enfance dans les années 80-90 en banlieue lyonnaise. Et dedans, j'y ai introduit la problématique de la révolte en insérant des moments de vie de leur grand-mère avec une comparaison sur nos modes de fonctionnement actuels. On découvre dans cet épisode l'existence d'un enfant caché qui va représenter la nouvelle génération. Donc c'est un enfant qui prend pas encore beaucoup de place dans le second épisode, qui lui a traité des différences avec la génération de nos parents, des parents de la génération Y, qui ont vécu à une époque où tout était permis, où on fumait dans les voitures, dans les cinémas, et où le consumérisme a commencé à prendre place dans les habitudes de vie. On a aussi découvert un peu plus l'intimité et le mode de fonctionnement du personnage d'Elisa. Et on a laissé les personnages au bord d'un lac en Corrèze. Dans ce nouvel épisode, l'épisode 3, c'est la nouvelle génération à travers le personnage de Jean qui va justifier son existence à travers le combat de ses ancêtres. Et là, on fait un gros saut dans le temps où c'est un dialogue entre arrière-arrière-grands-parents et arrière-arrière-petits-enfants qui va prendre place. Donc bah, dans chaque épisode, moi j'essaye l'écriture, je teste des choses. Et là, il y a plusieurs particularités qui ont été mises en place dans cet épisode-là. Donc on pourra en parler après la lecture pour pas trop révéler les secrets de fabrication en amont. Le suspense et laisser place complètement à la poétique du texte. On peut y aller. Je vous annonce. Elles y croient qu'elles peuvent voler. Eva Natalia Grenier, épisode 3. Attachez vos ceintures.
Elle ne pouvait pas le regarder, car elle devait être attentive à la route. Alors, elle restait à l'affût de ses gestes, s'habituait à son odeur et s'amusait de ses intonations. Il l'avait de suite séduite. Assise au bord du lac, éblouie par les rayons du soleil, elle avait d'abord aperçu ses fameuses boucles noires. Puis, en plissant un peu les yeux, elle découvrit ses grands traits de visage et tout son attirail de bonne humeur. Il avait pris sa mère, sa grand-mère, sa tante, et elle-même, très chaleureusement, dans ses bras. Et tout en lui était devenu familier. Dès leur première accolade, il était de ces gens qui vous enrobent délicatement dès leur premier sourire, dont chaque geste est tendre et semble être un nuage radieux autour de nos particules. De ceux qui vous regardent dans les yeux dès la première fois pour se présenter tout entier, de tout leur globe oculaire, qui regardent avec les reflets vifs de la lumière dans la nacre visqueuse de l'autre et ne dérobent pas leurs pupilles tachetées de confiance. Il était serein et bienveillant. Il n'y avait donc pas eu d'effusion de larmes, pas d'eau compressée qui avait jailli du coin de l'œil, pas de tressautement dans les voix. Elisa aimait ça, le calme, l'honnêteté et la confiance. Jean. Il s'appelait Jean et de toute son âme, il avait scellé leur rencontre dans une connivence hors du sacré. Et ils avaient tous passé un bon moment. Alors que les grands sapins avaient laissé place au goudron de l'autoroute, Elisa ne pouvait s'imaginer que le calme de son petit cousin aurait pu perdurer s'il avait grandi avec sa génitrice. Elle outrageait la bienséance en se disant que Megan avait bien fait de le laisser grandir loin d'elle, parce que ça lui avait réussi, parce qu'il n'était pas loin de la perfection et son habileté à caresser la vie était une générosité que Megan ne lui aurait jamais permis. Evelyn, l'idée horrible. Ouh là là, la mauvaise pensée. Les cellules qui avaient créé Jean étaient à moitié connues et l'autre moitié avait été bien choisie par les substances que Megan consommait sans restriction à la conception de son enfant. La vie avait lové ce garçon dans un foyer fait pour lui et il s'était épanoui malgré l'ombre de sa naissance. L'autoradio n'était pas en route car Jean avait le bras tiré devant lui, la paume de sa main pleine d'un téléphone en mode vidéo.
Et voilà mes lardons, j'en reviens, j'étais en Corrèze et j'ai pu rencontrer certains d'entre vous en meet-up hier soir, mais également la femme qui m'a donné la vie. Les deux étaient une expérience de folie, folie. Ça y est, c'est fait. Merci encore à tous pour votre aide et votre soutien. Grâce à vous, j'ai pu mettre un visage sur le mien, j'ai pu sentir le ventre qui m'a porté et j'ai rencontré une famille qui ne m'attendait pas. Ils sont tous blonds. Alors j'ai hâte de retrouver la seconde partie du puzzle parce que je vous jure que je ne me suis jamais teint les cheveux de ma vie. Qu'ils sont noirgés depuis que le Canon sans flash de ma mère m'a pris en photo à mon arrivée dans mon appartement de Maison Alfort il y a 15 ans. Alors tout de suite, je vais clarifier les choses. Quand je dis ma mère, je parle de Suzanne, la femme qui a attendu 12 mois que la paperasse française accepte de me déposer au creux de sa vie, et de celle de mon père, Patrick. Et celle qui m'a mis au monde, elle s'appelle Megan. Alors les 5 lettres qui composent ce prénom, vous comprendrez tout leur passif quand je les prononcerai. Beaucoup m'ont reproché, j'ai pas fait de snap, j'ai pas fait de live, mais je voulais vivre le moment pour moi, juste pour moi. Vous inquiétez pas, j'ai pris une tonne de photos, vous allez voir comme c'est beau, les sapins, et comme je ressemble à Megan, la blonde. Elle est blonde, non mais si je m'attendais à ça. Swipe up pour le montage vidéo. Elle ne m'a pas dit qui était mon géniteur, elle le sait pas. Elle avait 16 ans quand elle m'a eu à cette époque et elle expérimentait beaucoup apparemment. Vous voyez ce que je veux dire ? Ma course de spermatozoïdes, c'est un gros clin d'œil et elle a été un grand championnat parmi les marathoniens de tous horizons. La classe, dès le début, elle n'arrivait pas à me dire à qui je ressemblais. Mais elle m'a donné de l'espoir, elle m'a promis qu'un jour elle me ferait une liste. Alors les Colombos, j'aurai encore besoin de vous d'ici quelques temps. Elle avait parlé à personne de sa grossesse, elle a dit à tout le monde qu'elle était partie dans un stage humanitaire. En fait, elle m'a attendu au pied des immeubles de Lloret del Mar dans le studio qu'elle partageait avec une amie qui faisait les saisons. J'ai été bercé dans le son de la mer Méditerranée. C'est peut-être ça qui m'a tanné la peau, qui sait. En tout cas, elle m'a dit qu'elle avait été gentille avec moi, que même si elle ne voulait pas de moi avec elle pour la vie, elle avait accepté de me garder et de me donner pour qu'une famille soit heureuse. Elle savait qu'elle avait de bons gènes et que ce serait un bon cadeau pour quelqu'un. C'est drôle de se dire ça. Elle se disait qu'elle ne serait pas une bonne maman. Elle voulait pas me donner, elle voulait me donner le plus de chances possible d'avoir le moins de névrose possible. Elle m'a fait rire, elle m'a gardé grâce à son arrière-grand-mère. Je vous raconte, attention, petit cours d'histoire en perspective. Après la guerre de 14-18, son arrière-grand-mère s'est mariée avec son arrière-grand-père. Ils étaient très amoureux. Lui avait une bonne situation et elle une bonne forme physique. Il n'y avait plus de naissances en France, comme beaucoup d'hommes étaient morts à la guerre. Alors ils ont décidé de faire une grande famille. Il fallait repeupler la France et ils pouvaient se le permettre. Alors ils ont eu 8 enfants, pratiquement un tous les 2 ans. Des enfants beaux et solides, de ceux qui ne laissent pas les autres indifférents. Un clan fort, solide, dont les premiers membres se sont forgés au son de la Seconde Guerre mondiale, en jupe courte, dans l'usine de leur papa. un papa qui devait rester dans leur village pour gérer l'usine, qui aidait son beau-frère à envoyer des informations au maquis, qui ne se serait jamais laissé prendre par les Allemands et avait tout prévu s'ils arrivaient jusqu'au boulon de sa responsabilité. Des gens honnêtes et courageux, qui ont eu la chance d'avoir une situation correcte dans des années sans nom et qui ont tout fait pour que les choses avancent, pour que les choses avancent et que leur dot se répercute au gré des générations. Que la petite centaine d'êtres vivants qui sont sur la terre maintenant grâce à eux, fassent de leur mieux, qu'ils contribuent à ce que l'honnêteté et l'engagement relativisent les méandres des maux sociétaux. C'est un bel héritage. Quand Mégane est tombée enceinte, elle m'a gardée parce qu'elle savait que j'avais dans le sang une génétique généreuse. Elle avait grandi dans les excès des années 90 et le début des années 2000 était plein de promesses qu'elle ne se sentait pas tenir. Elle ne voulait pas décevoir les plans de restructuration ancestraux et les clés se sont perdues pour que les choses se fassent bien. Manger par un système où soi est plus fort que tout, parce que soi n'a pas vécu de grands traumatismes, pas encore, parce que soi se faisait manger petit à petit par des valeurs de plus en plus facilement étiquetables et incrustables. Elle savait pas comment avancer, mais elle gardait espoir qu'une famille serait là pour moi et ferait grandir la nature des cellules qu'elle avait créées. Elle avait pas eu peur que je tombe entre les mains de mauvaises personnes, ça lui est même pas venu à l'esprit. Elle avait senti que son choix était le bon. Et ce sentiment l'avait recentré sur son instinct qui est, en vrai, la seule arme qui peut encore nous appartenir. Et oui, Mélardon, on passe de l'histoire à la science. Le fait de comprendre de quel tout je viens me permet de connaître la raison pour laquelle on a laissé ma course se concrétiser et former un être humain. Savoir pourquoi on est venu sur Terre, vous vous êtes déjà posé la question ? Pourquoi vos parents vous ont-ils créé ? Pourquoi nous ? Et comment ? Vous avez la réponse à portée de main, ne ratez pas l'occasion de demander. Tenez, à côté de moi, la personne qui conduit, c'est Elisa, c'est la cousine de Mégane. On a tous les deux des sources communes et je ne pensais pas pouvoir me sentir aussi connecté à une inconnue rien que par le fait que nous avons le même sang dans nos veines. Je ne connaissais pas ce sentiment, j'avais jusque-là jamais croisé quelqu'un qui avait mes origines, le même sang rouge dans les veines bleues, les mêmes gènes, la même origine. C'est fou pour moi, c'est magique. Je crois que je veux faire des études de biologie. J'ai trop envie de comprendre comment ça marche tout ça. Allez, je mets un quiz en ligne. Votez pour ou contre ma future carrière de biologiste. Ou je reste sur le make-up. Swipe up pour voter. Elisa, toi, tu en penses quoi ? Premier vote en direct.
Elisa n'avait jamais entendu parler de cette histoire de repeupler la France. Elle tombait des nues. Comment sa cousine pouvait savoir cela et pas elle ? Pourquoi son grand-père ne lui avait rien raconté ? Pourquoi le grain de beauté n'avait pas fait le haut-parleur ? Sa grand-mère aurait pu raconter pour lui. Il raconte l'habitude. L'habitude, la guerre, il l'a raconté. Celle de quand il était petit, le sucre qu'il a mangé à 4 ans, tout le sucre. Mais il avait 4 ans. On ne peut pas en vouloir à un enfant. C'est les années 60 qu'il a jamais voulu dire. Les kilomètres dans le désert. Juste qu'il a tué personne. Juste qu'il ne veut pas raconter. Juste que c'est encore trop tôt. Elisa n'avait pas en tête que sa famille était de celles sur lesquelles on se retournait. Et qu'elle faisait partie d'un tout qui pouvait donner envie. Elle ne s'était jamais posé toutes ces questions. Elle avait envie d'encourager Jean dans une carrière en philosophie, pas dans une carrière en biologie, où l'intelligence de ce garçon pouvait vite se vendre au bénéfice de manigances dont l'éthique serait questionnable.
Tu veux que je te parle de ton futur ? Tu veux du conseil familial ? Alors passe ton bac d'abord. Passez tous vos bacs. Ça fait une base, puis tu verras. À 16 ans, on a le temps d'avoir 1000 carrières devant soi. Vivez. Prenez le temps de découvrir qui vous êtes et ce pourquoi vous êtes fait. Expérimentez, voyagez, rencontrez. Bon, arrête de me filmer, c'est mon mauvais profil. Bon, et puis arrête cette vidéo. On n'a plus que 3 heures de route devant nous et on a à peine eu le temps d'échanger 2 mots. Vous m'en laissez un peu, hein. Allez, éteins ça. Éteins. C'est aussi ça, tes gènes. Ton sang, tes veines. C'est aussi de l'intimité, Jean.
En quelques phrases, Elisa fit un triple flip dans sa tête et se retrouvait de l'autre côté de la barrière. Conseil, serment, ordre. À 31 ans, les vagues la menaient de l'autre côté du rivage, sans regret, et elle expédiait la story de Jean sans concession en appuyant les clichés générationnels de sagesse. Il avait obéi sans sourciller, un clin d'œil et un sourire de côté, à la caméra.
Allez, regarde le ciel. Il est rose et violet. Oh, c'est incroyable. Tu l'avais vu, là ? Allez, prends une photo pour ton montage. Mets un hashtag on the road. C'est un ciel idéal pour un retour en voiture. C'est fou. Je me retrouve à te parler comme si j'étais une vieille. Je conduis une voiture et je parle comme une adulte. Ça va vite, tout ça. Non, mais pour de vrai, tu sais. Je veux pas être aussi mélancolique que le ciel, mais ça va vite. Et les choix que tu fais, pense-y bien. Écoute-toi vraiment. Moi, je sais que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé devenir moi-même. Et je sens que toi aussi, tes parents, ils ont fait du bon boulot. Et ton chemin, il sera jamais droit et évident, mais prends le temps de savoir, pour pas te perdre trop vite. Parce que tu vas te perdre, ça c'est sûr. Tu vas te perdre et tu vas perdre des petits bouts de toi au fur et à mesure. Du temps, tu vas changer. Il y a des choses que tu aurais vraiment aimé garder en toi. Mais ça se fait comme ça, avec et malgré toi. Puis il y a des choses que tu es content de perdre. Moi, tu vois, quand j'y réfléchis, je suis contente de plus avoir de première fois. Il y a des gens, ils te diront le contraire. Mais c'est pas pour moi les premières fois. C'est pas pour ma nature. Moi, j'appréhende, je calcule, j'angoisse. Oh, l'expérience, ça, je suis contente d'en avoir. J'ai de moins en moins de sensations de peur de l'inconnu. Et ça, c'est tes aventures. Et il n'y a que toi et toi seul qui les vis. Personne ne les vit comme toi. Faut pas oublier ça. Hein. J'aurais pas dû te dire d'éteindre ta caméra. Hein. Mon discours, il vaut bien un talk show sur un canapé, non? Ou bien ça se fait plus, ça? Attends, quand tu rentres de cours dans l'après-midi, t'es tout seul sur ton canapé, tu prends un paquet de gâteaux et il y a bien des gens qui regardent leur vie, qui racontent leur vie, leur choix. Enfin, apparemment, c'est leur choix. Et toi, t'as accès à toutes leurs pensées et à tous leurs secrets. Parfois même, ils les révèlent aux autres avant même d'en avoir parlé à leurs proches. C'est plus comme ça maintenant? Maintenant, c'est digéré, ça. Maintenant, tout le monde, il peut faire ça quand il veut et tout le monde peut regarder quand il veut. T'as eu besoin des autres avec ton histoire, je comprends. Quand on est sans histoire, on a le temps de réfléchir et de critiquer sans se demander comment nous, on aurait réagi si on avait à faire d'autres choix, d'autres expériences, d'autres premières fois. Si j'avais eu un téléphone aussi connecté à ton âge, je sais pas ce que je serais devenue. Et je pourrais jamais le savoir parce que moi, à ton âge, j'étais entre mon canapé et le parc. Parce que c'est tout ce que j'avais pour parler avec l'extérieur. Il y avait encore un peu de pudeur. Ça a commencé tout juste. Il commençait juste à se substituer à nos cerveaux, à créer d'autres réseaux que nos neurones. J'aurais jamais imaginé qu'on puisse se raconter en direct à la terre entière. Et j'aurais jamais imaginé que j'aurais dit à mon époque le choix de tous qui nous mène là, avec une notion d'espoir qui semble diminuer parce que trop de choix, trop d'expériences ont déjà fait de nous. Et... qu'est-ce qu'on doit faire de tous ces choix, toutes ces expériences qui n'ont pas été que les nôtres, hein ? Qu'on s'est relevé des morts d'avant qu'il y en a et qui ont refait le travail et produit des petits soldats du futur en culotte courte et blouson en pneus. Alors quand il sera temps, quand la Terre elle pourra plus marcher à cause de nos trop, il y aura toujours des généreux ou des chanceux. Et ceux qui auront tiré les sonnettes d'alarme seront toujours là, dans les veines et le sang, et ceux qui auront abusé n'auront peut-être toujours pas appris la leçon. Et ceux qui veulent en profiter, ils seront certainement toujours là. Et ça se transformera. Il faudra réinventer. On n'aura plus la même place. Plus les mêmes animaux. Plus la même nature. Plus les dinosaures. Plus assez de place. Ça va changer. Il y en a qui fantasment la nature humaine avec des « avant c'était mieux ». Avant, ils tuaient aussi. Ils peignaient sur les murs pour le souvenir. Les bisons dans les grottes et les os dans la terre. Le brontosaure, il n'aura jamais été domestiqué en vrai. Imagine, monter sur son dos et grimper sur son long cou. Heureusement, ils étaient libres. Heureusement, ça ne va pas forcément être mieux. C'est pas forcément mieux quand c'est plus vieux, quand ça avance, quand ça change trop vite, quand ils atteignent nos pensées et que le lavage de cerveau commence à marcher. Que la fatigue prend pas. Malheureusement, tu n'es pas libre. Malheureusement, il paraît que c'est pas révocable. On pense toujours que ce qu'on vit est figé. Et le futur, ça reste de la science-fiction. Mais tu es réel. Et toi, ton époque, elle se mélange à la mienne. Et c'est la transition d'un monde qui se dissout dans 1 kilomètre. Ouh là là, dans 1 kilomètre d'ailleurs, j'ai une folle envie de faire pipi. Les aires d'autoroute. Ça, c'est bien une chose qui n'a pas changé entre ton monde et mon monde. Il y a juste plus de parfum au chocolat chaud.
Appuyant sur l'écran de la machine à boissons chaudes, Elisa sourit en choisissant le café latté avec paillettes de toutes les couleurs. Tout le chimique qu'elle allait ingurgiter flottait et flattait ses souvenirs et narguait son avenir. La petite fille en elle fourmillait d'avoir une boisson de toutes les couleurs. Elle levait le godet vers sa bouche. Son arrière-grand-mère avait pu faire ce geste. Sa grand-mère aussi, plus tard. Dans leur vie, pas à son âge, pas encore. Elles ont vécu ça plus tard. Pas de climatisation, des enfants de partout et la découverte à chaque fois d'un nouveau divertissement pour reposer le voyageur, refaire le plein d'essence, d'énergie, de batterie, de téléphone pour Jean. À 31 ans, pas d'autoroute. Des autoroutes pleines de soldats pour l'une. À 31 ans, le début des autoroutes avec un enfant à ses pieds et les trois autres comme des sardines sur la banquette arrière pour l'autre. Le morceau de plastique touchait ses lèvres et le liquide commençait à réchauffer ses papilles. Des paillettes dans du café. Pas de bon de rationnement, pas d'enfant qui lui tire la jupe. Mais des soldats, oui, des soldats, il y en a. Toute une cargaison, jeunes, en treillis. Certains ont du café dans les mains, certains ont des armes dans leurs mains. Et ils regardent autour. Et l'habitude, elle avait oublié qu'elle avait eu le temps de prendre l'habitude des soldats. Ça aussi, ça se transmet. Ça, elle n'aurait pas cru qu'elle en partagerait l'expérience avec ses aînés. Jean aussi avait l'habitude. Arriver à garder son calme, c'est le paysage, les premières palpitations. Elle avait été grosse et grande, les yeux à l'affût, et les choses qu'on commence à faire moins naturellement, avec moins de calme. Et la vie qui reprend, mais les précautions grandes. Si jeune. Des hommes si jeunes. La maison de son arrière-grand-mère était à côté des voies ferrées. 6 ans. Elle avait 6 ans et c'était la Première Guerre mondiale. Et dans les trains, elle voyait les hommes de plus en plus nombreux et l'odeur des hommes entassés et ceux qu'ils ont appelés les sauvages, qui n'avaient pas d'habits comme les autres. Et elle a vu son père partir et revenir, changer. Et en première ligne, les hommes qu'on avait fait venir par bateau, puis par train, ceux qui n'étaient pas encore habillés comme les autres, sacrifiés. Et là, comme les paillettes, il y a toutes les couleurs derrière les treillis, toutes, et il ne se passe rien. Juste la guerre, juste le vivant. Et seul, au milieu de tout ce tourbillon, il y a un vide immense qui tache le cœur d'Elisa. Et elle manque de trébucher. Mais personne ne le voit. Un petit vertige, une petite maladresse, tout petit, invisible pour les autres. Personne n'a rien vu. Tout le monde a les yeux grands ouverts autour d'elle. Mais c'est la peur de chacun qui prend place sur tout. Et il ne voit pas qu'elle vient de tomber à l'intérieur, juste quelques secondes. Juste après sa première gorgée. Elle aurait voulu avoir un prince à tremper. La caféine ne suffisait plus. Et le vertige. Des rires autour sur la table de la grande maison près de l'usine. On vient de jouer sur le terrain de tennis, plein de mauvaises herbes. L'usine sous les ronces, le bol en faïence dans les mains, le sachet en plastique plein de vieux sachets de thé pour les grands. Les jambes qui tirent d'avoir couru après la balle. Pas d'avoir conduit. On ne sait même pas combien ils sont dans la maison. On ne compte qu'avant de passer à table. Il y a du monde de partout et au son des activités, on devine qui est où. Elisa et Megan sont face à face et le paquet de princes est bien entamé. Elisa en trempe un dans son bol et quand ses dents croquent dedans, elle s'attend à quelque chose de moelleux. Mais quelqu'un vient de claquer une boule au billard dans la pièce voisine et les voix de son oncle et de son père s'exclament entre celles des grands cousins et cousines. Elisa a râpé ses dents sur le prince et un peu de sang coule sur sa lèvre. Megan est en train d'essayer de faire sortir de son nez le lait qu'elle vient d'avaler en riant le plus fort possible. Elisa hésite entre le rire, la surenchère et rejoindre sa mère pour qu'elle la rassure sur le sang. Elle décide de rire, de reboire une gorgée de lait chaud et de laisser Megan avec les autres. Elle a assez de public pour qu'Elisa puisse s'éclipser. Elle garde le reste de prince à sa main et au cas où, elle ait tout de même le droit d'en remanger, malgré sa blessure. Il pleut. Alors sa mère ne sera pas vers la balançoire. Elle n'est pas dans le petit salon ni dans la salle de jeu vide. Elisa s'avance vers l'immense cage d'escalier et y croise Black, le grand chien de son arrière-grand-mère. Elle ne le caresse pas. Black a attaqué Billy ce matin, le chien de son oncle, et Elisa aime beaucoup Billy. Son frère est dans les escaliers à préparer un mauvais coup avec Sven. Elisa entend son arrière-grand-mère chanter dans la cuisine et s'y aventure alors. Il y a des chances que d'autres femmes savantes soient également là. Elle y entre, elles sont là, et les larmes commencent à couler. Elle sent qu'elle peut lâcher prise de sa blessure. Elle montre le petit filet de sang qui coule à peine du bord de sa bouche, tout en serrant très fort son prince dans la main. Son arrière-grand-mère s'approche d'elle tout en continuant de chanter. Les autres femmes, sa mère inclue, continuent d'écosser les haricots. La chanteuse sort un mouchoir brodé de son tablier et tapote les lèvres d'Elisa. Son grain de voix tressaute avec allégresse et ses lèvres s'arrêtent un instant pour se poser sur le front de la blessée. Les graviers sur le bas-côté de la porte de la cuisine crissent. Les papis jouent aux boules. La mère d'Elisa s'approche de sa fille. Et tandis que la main maternelle frôle les lèvres engourdies de la fille, la main fripée et pleine d'histoire enlève le prince entamé de sa main frêle et y insère un bout de pied, un pied à la fleur d'oranger et aux écorces d'orange confite qui manquent au petit soldat fermé sous le torchon à rayures posé sur le buffet blanc. Un doigt sur la bouche. Meghan, qui accourt et pose la main sur l'épaule d'Elisa, l'arrière-grand-mère qui recouvre le soldat et Elisa qui resserre fort sa main sur le pied coupé. Le mouchoir teinté de sang se dirige vers le nœud plein de lait chocolaté de Meghan et les filles, encouragées par leurs aînés, sortent de la cuisine. Ni elles, ni les femmes ne savaient que les attendraient des jets de ballons remplis d'eau lancés des escaliers. Le pied du soldat finit vite dans la bouche d'Elisa, pour qu'elle rejoigne en courant le petit bureau de l'entrée où le verrou les protégera, elle et Meghan, des bombardements à queue. La porte refermée, les cris des aînés, les fessées qui claquent, et tout le monde parle. Ils ont beaucoup de choses à se raconter. Il y a un soldat qui parle avec Jean en regardant leur téléphone. Jean sourit. Le soldat aussi, et sans faire exprès, Elisa est déjà trop proche. Sans faire exprès, elle avançait vers eux. Elle veut reculer. Elle veut leur laisser de l'intimité. Ils ont le même âge, ces deux garçons. Elle ne veut pas mettre les pieds dans le plat. Et quelque part aussi, elle veut boire sa boisson chaude, tranquille. Remplir le trou qui vient de se creuser, s'asseoir. Mais il n'y a pas de fauteuil, libre. Pas de bord de table, libre. Alors elle cherche des yeux les toilettes, mais ne les trouve pas. Elle ne veut pas s'arrêter en plein chemin. Elle ne peut pas. Ce serait suspect. Elle ne veut pas être suspecte. Il y a des hommes avec des armes tout autour d'elle. Et elle sait que c'est pour la protéger qu'ils sont là, pas pour la suspecter. Mais pourquoi ne serait-elle pas suspecte? Elle vient de sourire béatement en buvant sa première gorgée de café pailleté, puis de tomber en elle. C'est un comportement inhabituel. Les gens ne sourient plus vraiment seuls dans un espace public. Ils ne font plus ça ou ne l'ont jamais vraiment fait. Elle sait que sa manière de faire est inhabituelle, elle le sait. On lui a souvent dit. Mais elle est douée pour apprécier les choses et sourire. Même seule. Même dans une aire d'autoroute. Même quand personne n'a rien vu. Même quand personne ne l'a vu. Sourire. Fort. Puis s'écrouler dans les escaliers de sa cage thoracique. Alors, elle continue son chemin et en l'apercevant, Jean lui caresse le bras et l'inclut dans la conversation comme il sait le faire. En mettant à l'aise, et le soldat la salue d'un hochement de tête. Il n'est pas mécontent qu'elle soit là. Et Jean non plus. Elle n'est plus suspecte. Alors appuie son coude sur le rebord de la table haute où le téléphone de Jean charge. Et elle leur sourit en retour. Et elle prend une seconde gorgée, et Jean continue à parler. Et ce que dit Jean, elle ne l'écoute pas vraiment. Elle le transforme. Elle voudrait qu'il parle avec le soldat, avec la franchise et la sensibilité qu'on lui demande à elle de toujours garder, de ne pas donner aux inconnus. Et dans ce que Jean dirait, elle ne reconnaîtrait pas un adolescent de 16 ans, parce qu'elle voudrait que ça aussi, ça change, que les âges ne correspondent plus. Puis ça dirait aussi que tu n'es pas un extraterrestre, que tu ne dois pas absolument téléphoner maison quand tu parles aux gens sans les barrières, sans se cacher derrière. Puis finalement, s'il y a bien un endroit où on peut se le permettre de parler aux autres sans détachement, c'est bien sur une aire d'autoroute, une pause, un instant, un entre-deux, un lieu de passage.
C'est comme quand ton cerveau est dans le sombre, que tu peux plus voir les choses autour de toi comme elles le sont vraiment. Comme quand tu te demandes à quoi le vraiment correspond, le vrai de qui, le vraisemblable de quoi. Comme si la vie, Elle ressemblait seulement à une chose, une seule manière de faire, que tu sais que c'est pertinemment faux et que la vérité, c'est qu'il n'y en a jamais qu'une seule. Que ce mot, il vient d'où en fait ? En fait, pourquoi on dit mensonge ou vérité ? Entre les deux, c'est l'existence et l'acceptation de la subjectivité. La vérité, on dit que c'est ce à quoi l'esprit peut et doit donner son assentiment. C'est une connaissance conforme au réel. C'est l'expression du réel. Et le réel, en fait, c'est qu'il y aurait des nuages de partout et la pression viendrait de l'intérieur. Dans ces moments-là, ceux où la vie a du mal à prendre place, où elle se mélancolise, genre tu es piégé par toi-même. Les pas que tu fais semblent à peine marquer le sol et tu avances malgré toi en suivant ce qui fait le plus de lumière, parce que ça demande du courage d'aller dans l'ombre et d'allumer les petites bougies sur le chemin. Et la semence, libre, est donnée dans un vase qui jaillit, malgré la froideur et la lenteur qui semblent être douces et fines. Il y a le joli colibri qui voudrait être jaune et déployer ses ailes dans le ciel tout bleu, tout en draguant les nuages pour s'accommoder de tout. Et il y a un petit garçon qui regardait le ciel et qui le voit voler. Le petit garçon est assis sur une botte de foin. Il a les joues rouges et une madeleine à moitié entamée entre le pouce et l'index. Il regarde vers le ciel sans s'ennuyer, juste parce qu'il a de l'espoir et qu'il veut voir un avion. Et c'est le colibri pas encore jaune qu'il voit. Et il ne devine pas que le colibri vient d'être utilisé dans une métaphore sur les ploufs de la vie, les trous sans saveur qui se font remplir de choses souvent malsaines, parce que la nature humaine, elle n'est pas tout le temps légère comme un colibri dans le ciel. Elle ressemble aussi à un hippopotame maladroit qui a du mal à avancer. Alors le petit garçon, en voyant le colibri, il sourit, voilà, il sourit. Et il n'est même pas déçu de ne pas voir un avion. Il met dans sa bouche le reste de la madeleine. Il tourne la tête et il voit la voiture de son père se garer dans l'allée. Alors il saute de la botte de foin et il court pour que son papa lève vite les yeux vers le ciel pour voir le colibri pas encore jaune. Son papa sort de la voiture, le pas lourd. Il vient de voir un hippopotame et en entendant son fils l'appeler, un petit papillon vient virevolter tout au fond de lui.
Et Elisa regarde Jean. Et Elisa reconnaît Jean. Elle lui pose la main sur le bras et se dirige vers la machine à boissons chaudes et y insère une pièce. Elle veut lui prendre un café sans sucre. Elle espère que ces machines proposent toujours des cafés sans sucre, simples, sans paillettes. Un café pour Jean. Un café comme l'aimait le père de Jean. Et ils iraient tous les trois vers la balançoire, où deux vieilles femmes seraient assises et discuteraient. Ils tendraient leur front pour un baiser, et il rejoindrait Megan, qui serait assise au bord du petit bassin. Il boirait un café en ayant la meilleure vue sur la maison. Une petite fille viendrait se lever entre les genoux d'Elisa et ils se diraient les vérités qu'ils ne se sont pas dit. Mais la maison est vendue et elle ne sait pas où est le père de Jean. Alors, pour commencer, elle tape. Espresso simple, sans sucre. Et attend que le liquide chaud se mette à couler.
Dans une famille nombreuse.
Ah ouais.
Maurice. Quand on s'est marié, tu sais, c'était des années où il n'y avait point de naissance en France. Mmh. Et à côté, il y avait l'Allemagne qui faisait que des petits. Mmh. Alors on disait, ça va donner une guerre. Ça ne pourra pas, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Et de voir ça, eh ben, nous qui sommes jeunes, qui avons la situation, mmh, qu'on peut se faire aider, qui a tout ce qu'il faut, on aura une famille nombreuse. Mmh. On s'était mariés avec l'idée, mais peut-être pas 8, mais 4 au moins, 4 ou 5. Voilà, d'accord. C'était notre... Non, on n'avait pas pensé 8. Mais tu vois, on s'était mariés quand même avec l'idée d'avoir des enfants. Mmh. Papa donc me disait, nous, on peut les élever, c'est bien, j'ai une jolie situation, tu as la santé, bon, voilà, bon, mais on fera des petits parce qu'il faut peupler la France. Mmh. Oh, c'était un désastre. Mmh. C'était un désastre. Il n'y avait aucune naissance en France. Je ne sais pas combien il y en avait l'année où Georges est né. Je l'avais revu à Saint-Uze. Oh, c'était vraiment minable. Mmh. Ceux qui étaient nés la même année que lui. Maintenant, on avait décidé qu'on aurait une famille. La guerre m'a énormément marquée. D'abord parce que mon père y est parti.
Ouais.
Ensuite, c'était quand même très impressionnant, on n'en parlait que de ça. Et nous, qui avions donc le chemin de fer à côté de nous, on voyait passer que des soldats. Et ensuite, les canons, des affaires sur ces wagons, enfin, c'était très impressionnant, très, très impressionnant. Et puis, enfin, c'était quand même terrible, hein.
Après, tous ces hommes. À la Seconde Guerre, ça t'a refait pareil?
Pas du tout le même effet, non, parce que quand même j'avais changé.
Ouais.
Mais enfin, j'ai fait quand même deux guerres, c'est beaucoup pour une vie. Mm-hmm. Je t'assure que c'est pas rigolo. Okay. Mais après la première guerre, il y a eu des moments rudes. Enfin, on a fini par la gagner, c'était déjà quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu passer dans les trains? Jusqu'à des sauvages une fois. Je me souviens toujours de ce... Je m'en rappellerai toute ma vie de ce train de sauvages. On allait chercher, tu vois, c'était des gens qu'on allait prendre en Afrique, des Noirs, et qu'on faisait. Et il y a eu, il est passé un train vraiment avec des. Mais des gens habillés, ils n'avaient pas de culotte, ils n'avaient rien, ils avaient une petite jupe, des sauvages. Et on devait les envoyer à la guerre, se battre, sans savoir où ils allaient. Et il paraît, me disait mon père, que c'est eux qui passaient devant quand on faisait une attaque. C'était... Alors ça, mon père, ça l'avait dégoûté, profondément, qu'on fasse tuer ces gens qui n'y connaissaient rien, qui ne savaient même pas pourquoi ils se battaient. Eh bien, moi, je me souviens d'avoir vu passer un train, vraiment, je te dis, de sauvages, de gens avec des jupes, des hommes avec des petites jupes, des sauvages qu'on avait pris en Afrique. On en avait fait un plein train, on l'a expédié probablement à Lyon ou ailleurs, et on les a habillés en soldats, et on les a envoyés se battre et se faire tuer. Alors j'ai toujours dit, je suis comme Jeanne d'Arc, qui disait mort à la guerre, c'est-à-dire tuer la guerre, hein. Enfin, c'est pas un mort à la guerre, c'était, elle voulait dire à ça, tuer la guerre, et je répète toujours, tuons la guerre.
Vous êtes toujours sur le Théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre radiophonique. Vous venez d'entendre une lecture d'un texte d'Eva Natalia Grenier. Il s'agit de plusieurs épisodes d'un texte qui a pour titre « Elles y croient qu'elles peuvent voler ». Et là, il s'agissait de l'épisode 3, « Attachez vos ceintures ». Je vais céder la parole à Eva, peut-être qui veut rajouter quelque chose sur cette lecture.
Eh bien déjà, merci à tous.
Merci Eva.
Alors, ce que vous avez pu entendre à la fin de la lecture, c'est une interview de mon arrière-grand-mère, en fait, qui s'appelait Elisabeth Lecomte. Et en fait, j'ai eu la chance de tomber sur cette interview. Mon grand-père me l'a fait passer, comme il savait que j'écrivais une saga un peu sur notre histoire familiale. Et du coup, c'est vraiment son parcours qui a imprégné cet épisode-là. Et ça me faisait très plaisir de pouvoir vous faire entendre sa voix et de pouvoir aussi vous faire partager. Dans le texte, j'essaye de décrire cette espèce d'ambiance de maison. Et là, je trouve qu'on la sent bien, on entend un peu les enfants rire derrière. Et ce qu'elle dit réellement, c'est vraiment une belle femme généreuse. Et voilà, de pouvoir lui rendre hommage dans ce texte-là et de l'entendre après... Je trouve ça me plaît beaucoup. Voilà. Et du coup, le test dans cet épisode-là d'écriture, c'était vraiment de pouvoir essayer d'introduire ça, d'introduire un mélange des générations, comme l'épisode 2 parlait de la génération des grands-parents. Non, l'épisode 1, les grands-parents. L'épisode 2, des parents. Cet épisode 3, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Elle se mélange. Elle se mélange, celle-là.
Il faut un arbre généalogique.
Il y avait besoin de ça aussi pour pouvoir avancer après, comme dans la vie, hein, de bien comprendre d'où on vient pour le futur et le futur de cette saga-là qui va bientôt arriver.
Mm-hmm. Le 19 novembre, non ?
Non, le 14 décembre.
14 décembre.
On aura l'épisode 4 le 14 décembre. Okay. Et voilà.
Et tu sais où tu vas parce que du coup t'écris à chaque fois.
Oui, là l'épisode 4, il est écrit à moitié. Et c'est vrai que bah, tout s'imprègne en fait à chaque fois de ce qui se passe. Et là, là, cet épisode-là, il est imprégné de vraiment de ça en ce moment. Quand on parle aux gens, en ce moment, je trouve que tout le monde dit « Ah, je vais quitter Facebook parce qu'il y a trop d'informations. Je vais, voilà, il y a la nouvelle génération. Enfin, moi, mes cousins, je sais qu'ils sont que sur Instagram ou Snapchat. Enfin, et ils ont 18-19 ans. Enfin, c'est plein de choses comme ça. Et sur Facebook, tu as que des vidéos alarmistes et ah, tout ça. Et c'est vrai que ça fait un moment, mais là, il n'y a que ça pratiquement. Et du coup, ça a pris aussi beaucoup de place dans cette écriture-là. Et voilà.
Comment tu travailles pour l'écriture ?
Bah, en fait, on c'est... part que de ce qu'on connaît, j'ai l'impression. Donc du coup, moi, je pars d'un souvenir. Enfin, j'ai un canevas, je sais à peu près ce dont quoi je veux parler dans l'épisode, et après c'est de l'écriture automatique.
D'accord, c'est ce que je voulais savoir. Oui.
Ouais.
C'est de l'écriture automatique.
C'est vraiment. Ouais.
Si c'était une autre forme d'écriture, un autre procédé.
Non, ouais, il y a vraiment un. Je sais, par exemple, là dans l'épisode 4, je sais comment je veux que ça finisse, mais j'ai encore une moitié à écrire. Et là, la moitié, elle est coincée. Enfin, elle est... il va falloir un truc qui la débloque.
Il faut écouter de la musique. Alors.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça, tu travailles avec de la musique.
Oui, cet épisode-là, il a été complètement sponsorisé par Muse. Hein, je n'écoutais que ça. Enfin, je n'ai écouté que Muse pendant ça. Je pense que je l'ai écrit en deux semaines, quelque chose comme ça. Et vraiment, ça a été, c'était H24. Comme il y a le nouvel album qui sort, donc le 9 novembre, la sortie du nouvel épisode.
Ils en ont besoin.
Ils en ont besoin, hein, ça, c'est sûr. Et du coup, oui, là, c'était très imprégné de ça. Et c'est fou, ouais, comment on est, hein, comment l'ambiance, enfin tout ce qu'on vit.
Et le théâtre, c'est une première dans l'écriture ou t'as principalement écrit du théâtre ?
Ah oui, non, le théâtre, c'est que ça. Avant moi, quand je travaillais en collectif, c'était de l'écriture au plateau ou alors en amont pour les laboratoires ou les créations que j'ai faites. C'était vraiment pour des. Par contre, j'écrivais pour les gens, enfin pour les personnes que je connaissais et vraiment c'était adapté pour eux. Je savais qu'ils avaient une scène à jouer, donc je leur écrivais ça. Mais là, plus global, non, ça fait 2-3 ans. Et c'est vrai que l'écriture de la saga, c'est super intéressant parce que tu peux à chaque fois changer, en fait. À chaque fois, tu peux essayer d'autres choses tout en garder une trame dramaturgique qui mène quelque part. Mais ça, cette construction-là, comme je l'ai bien construite en amont, elle est bien réfléchie. La structure dramatique, elle est vraiment réfléchie. Ça laisse cette liberté-là autour, à chaque épisode, de pouvoir tester. Là, par exemple, je ne sais pas si la saga va se faire en 6 ou 7 épisodes. Je me laisse un épisode d'option.
Un final.
Et ça fait longtemps que tu écris ?
Non, pas tant que ça, en fait. Non, ça fait pas... Ça fait...
Si, dans ta tête, t'écris depuis longtemps.
Oui, dans ma tête, bien sûr.
Non, mais t'as une manière déjà construite, et qui est littéraire, en fait.
Oui, bah...
Donc, ta manière de raconter les choses ou quoi, enfin, moi qui te connais bien. Et du coup, là, de te lire, c'est chouette. Et d'ailleurs, une adaptation théâtrale ?
De ça ?
Ouais. Plutôt filmée, puisque comme tu dis, des épisodes, ça s'entendrait plus...
Bah, j'avoue que c'est vraiment écrit pour la radio, donc du coup pour moi je l'imagine pas autre part. Mais en fait à la base c'était, je voulais aller vers la forme romanesque, et du coup je vois plus un final en roman de ça qu'un final en adaptation scénique. En fait là si après il y a quelqu'un qui a envie de travailler dessus, alors il y a pas de souci. Mais moi j'ai déjà monté des projets, je l'ai déjà fait, et c'est plus quelque chose qui m'intéresse du tout.
Mais je te posais cette question sur l'écriture de théâtre parce que pour moi je trouvais dans le texte que ça amenait quelque chose de l'ordre du roman avec cette narration qui est présente. C'est, enfin, dans le style il y a quelque chose un peu de l'ordre du roman justement, et du coup voilà, c'est pour ça que je posais la question si tu faisais essentiellement du théâtre ou plutôt des textes qui vont plus dans le sens d'un roman ou une...
Bah là c'était le but, en fait. À la base, comme j'avais écrit des pièces de théâtre, j'avais vraiment envie d'aller vers le roman. Et puis en fait, c'est fou parce que j'ai eu un accident de vie quand j'ai commencé à écrire. À la base, ça devait être un roman. Et quand j'ai commencé à l'écrire, j'ai vraiment eu
quelqu'un qui était en train de partir dans ma famille. Et du coup, ça m'a bloquée. Enfin, je pouvais plus. Et en fait, quand il est parti, j'ai fait, non, en fait, il faut libérer cette parole-là. Faut leur donner parole à ces gens-là qui sont partis. Et je trouvais que, du coup, comme on avait déjà testé des choses ici au Théâtre de la Gamelle, je trouvais que c'était vraiment un endroit parfait pour que ces gens puissent prendre la parole.
Oui, parce que je rappelle que Eva écrit pour nous, pour le Théâtre de la Gamelle. on est en exclusivité dans les studios de Radio Canu.
C'est des... Oui, ben c'est ça.
Oui, c'est ça.
C'est ça. C'est ça.
C'est un beau cadeau.
Mais j'avoue que oui, c'est plus vers une forme romanesque que j'aimerais que ça aille. En tout cas, moi, avec les choses que moi... Tant que ça sera entre mes mains, ça sera pas. C'est du roman qui me fait envie.
Je rappelle que vous pouvez écouter et réécouter plutôt les anciens épisodes sur le blog du Théâtre de la Gamelle ou le blog de Radio Canu dans l'onglet Théâtre de la Gamelle, bien sûr, et que vous pourrez réécouter, bien entendu, l'intégralité de cette émission sur le blog dans quelques jours, le temps de mettre ça en ligne. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ?
Non, moi, merci à vous. Chers lecteurs
et auditeurs.
Et du coup, Eva propose que nous nous quittions en musique, dans la continuité de cette lecture. Alors, je vais peut-être écorcher le nom. Il s'agit de Epilepsy is Dancing.
Tout à fait, de Anthony and the Johnsons.
Voilà. Et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine au Théâtre de la Gamelle pour une nouvelle émission de théâtre radiophonique. D'ici là, passez un bon week-end.
Bon week-end.
Et n'hésitez pas à aller vous mettre au chaud au théâtre.
Oui. Oh oui.
Bonne semaine.
Au revoir.
She's a Christ now departing, and I'm finding my rhythm as I twist in the snow. Oh, the metal burned in me, down the brain of my river. Oh, the fire was searching for a waterway home. I cry, glitter is love. My eyes pinned inside with green jewels, hanging like Christmas stars from a golden. As I came to a screaming, hold me while I'm dreaming, for my fingers are curling and I cannot breathe. Then I cried in the kitchen, how I seen your ghost witching, there's a soldering blue line between my eyes.
Était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'armes. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardaires. Noble.
Journal vivant.
Construction. Obéir à sa voix.
C'est un malade, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire.
Imiter son silence.